Bodh Gaya, le lieu où le Bouddha obtint l'éveil. Si les bouddhistes avaient une Mecque, ce serait Bodh Gaya. C'est le site où se trouve le magnifique temple de la Mahabodhi, qui se dresse à l'est du célèbre arbre de la Bodhi. Écoutez les chapitres 3 et 4. Ce temple, qui est en fait un grand stupa élevé sur des reliques du Bouddha, marque l'endroit le plus important et le plus saint de tout le monde bouddhiste. Le trône de diamant sur lequel le Bouddha obtint l'éveil il y a plus de 2500 ans. À propos, le terme sanskrit Mahabodhi signifie « grand éveil ». La plupart des pèlerins atteignent la ville de Bodh Gaya d'abord par le train jusqu'à la ville de Gaya, où se trouve l'un des lieux de pèlerinage les plus sacrés de l'hindouisme, puis en continuant sur 13 km vers le sud en taxi, en rickshaw ou pour ceux qui aiment les endroits bondés, en bus. La route entre Gaya et Bodh Gaya suit le lit d'une rivière asséchée la plus grande partie de l'année, surtout en hiver. Ici, l'hiver est la haute saison pour les pèlerinages, et ce pour de bonnes raisons. Bien que de nombreux bouddhistes célèbrent l'anniversaire de l'éveil du Bouddha en mai ou en juin, il est possible qu'une visite de Bodh Gaya à cette période de l'année vous cause des soucis, à moins que vous ne soyez un fan de températures atteignant ou dépassant régulièrement 48 degrés. Bien avant le village de Bodh Gaya, vous pourrez voir le sommet du Grand Stupa, comme on appelle souvent le temple de la Mahabodhi, qui se dresse à une hauteur de 55 mètres au-dessus de la plaine environnante. Personne ne connaît avec certitude l'âge de ce monument, mais des témoignages de pèlerins chinois du 7e siècle montrent que son érection date de ce siècle ou peut-être de quelques siècles avant.
Les pèlerins hindouistes à Bodh Gaya. Les bouddhistes ne sont pas les seuls pèlerins qui se rassemblent à Bodh Gaya. Comme tous les lieux saints bouddhiques, le temple de la Mahabodhi attire aussi les pèlerins hindouistes. Beaucoup d'hindouistes considèrent que le Bouddha fut une incarnation de leur dieu Vishnu, dont la fonction était d'assurer la conservation de l'univers créé. Ils croient que chaque fois que le besoin se fait sentir, Vishnu descend sur terre dans la forme appropriée d'un avatar. Le terme signifie littéralement « un qui descend » pour fournir son aide divine. Le Bouddha est très largement considéré comme étant le 9e grand avatar, incarnation, de Vishnu. Et de nombreux hindouistes sont d'avis que sa mission était de mettre un terme à la coutume des sacrifices d'animaux.
N'oubliez pas, l'une des pratiques les plus observées sur des lieux de pèlerinage comme le temple de la Mahabodhi est la circumambulation. Ce terme latin à coucher dehors désigne la pratique qui consiste à faire le tour d'un objet ou d'une personne en marchant. Juste avant de s'asseoir la veille de son éveil, le Bouddha montra son grand respect pour l'arbre Bodhi en marchant autour de lui 7 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Depuis, la circumambulation autour d'objets sacrés est devenue une pratique vénérée dans certaines traditions bouddhiques. Les bouddhistes du monde entier la pratiquent autour du temple de la Mahabodhi et marquent ainsi leur respect pour le lieu où se produisit l'un des événements les plus déterminants de l'histoire du bouddhisme. En haute saison de pèlerinage, on voit des bouddhistes pratiquer la circumambulation à chaque heure du jour et de la nuit. Et si par hasard vous vous y rendez une nuit de pleine lune, où le pouvoir de telle pratique est censé être bien supérieur, vous risquez d'être balayé par la masse humaine qui s'y trouvera.
Anecdote. Observer le Dharma, c'est mieux. Les instructeurs bouddhistes rappellent infatigablement à leurs disciples que la valeur de leurs actions dépend pour la plus grande partie de leur esprit et de leur motivation. Cette idée vaut aussi dans la circumambulation autour de lieux saints, comme le montre l'histoire qui suit. Drompa Tongpa fut un maître tibétain du XIe siècle qui fonda le célèbre monastère de Radreng et que l'on considère être l'un des prédécesseurs de la lignée des Dalai Lama. Un jour, il vit un vieil homme en train de marcher autour du monastère et il lui dit « ce que vous faites, c'est bien, mais observer le dharma, c'est mieux. » Croyant qu'il devait faire autre chose, le vieil homme arrêta sa circumambulation et se mit à lire un texte du dharma. Mais bientôt, Drom Thongpa revint le voir pour lui dire « C'est bien d'étudier les écritures, mais observer le dharma, c'est mieux. » Le vieil homme ne savait plus quoi faire. Il demanda alors à Drom Thongpa « Mais que dois-je donc faire pour observer le dharma ?» Le lama lui répondit alors « Abandonnez votre attachement aux préoccupations matérielles de cette vie. Tant que vous n'aurez pas changé votre attitude, rien de ce que vous ferez ne sera une réelle pratique du dharma. »
L'espace qui entoure le temple de Lama Abodhi accueille de nombreux stupas et sanctuaires de taille plus modeste, dont certains marquent des lieux où le Bouddha résida durant les 7 semaines qui suivirent immédiatement son éveil. Beaucoup de pèlerins y décrivent cercle sur cercle en marchant et se rendent d'un monument sacré au suivant. Sur tout ce grand domaine, les pèlerins se livrent aussi à d'autres pratiques religieuses. Par exemple, ils récitent des prières, ils effectuent des offrandes ou ils s'assoient, tout simplement, pour méditer tranquillement. Une petite pièce au rez-de-chaussée du temple de Lama Abodhi, dominée par une statue ancienne et particulièrement belle du Bouddha, est l'un des lieux de méditation favoris. Être assis devant cette statue bénie au cœur de ce grand stupa, cela donne vraiment l'impression d'être en présence du Bouddha lui-même. En fait, l'influence du Bouddha est encore très vivante, quasiment partout à Bodh Gaya. L'un des instructeurs de Yon lui a dit qu'il adorait Bodh Gaya, parce que là-bas, pas besoin d'essayer de méditer. La méditation s'installe automatiquement toute seule. Les bouddhistes du monde entier ont tiré profit de ce lieu très particulier en construisant des temples bouddhiques aux alentours du domaine du temple de Lama Abodhi. Il en résulte que certains endroits de Bodh Gaya ressemblent aujourd'hui à un parc d'attractions ayant pour thème le bouddhisme, car ils sont bourrés d'exemples des architectures religieuses les plus variées d'Asie. On trouve d'autres lieux de pèlerinage non loin de Bodh Gaya, et bien que ceux-ci ne possèdent pas autant de monuments que Bodh Gaya, ils présentent quand même un grand intérêt. Par exemple, de l'autre côté du lit de la rivière asséchée, on trouve les lieux où le Bouddha passa 6 ans à jeûner avant son éveil, l'endroit où il rompit son jeûne en acceptant l'offrande de Sujata. Écoutez le chapitre 3. Dans les collines avoisinantes, on trouve aussi des grottes où ont habité de grands adeptes de la méditation du passé.
Le zen et la question du mérite. Parmi toutes les écoles bouddhistes, le zen, l'une des premières à devenir populaire en Occident, a la réputation de remettre en question les hypothèses religieuses traditionnelles et pour de bonnes raisons. Pour en savoir plus sur le zen, écoutez les chapitres 5, 7 et 8. Alors que selon celle-ci, l'adepte accumule du mérite spirituel par des pèlerinages et d'autres activités bénéfiques, le zen proclame que tout n'a qu'une valeur limitée, sauf l'éveil complet. La discussion ci-après entre Bodhidharma, le moine légendaire qui introduisit le zen de l'Inde en Chine, et l'empereur chinois en est un bon exemple. Peu après être arrivé en Chine au VIe siècle, Bodhidharma rencontra l'empereur chinois, Wu, qui était un fervent bouddhiste. Wu avait fait construire de nombreux temples, traduire les écritures bouddhiques, et même enseigner lui-même le bouddhisme. Sans aucun doute, il attendait de Bodhidharma que celui-ci confirme la valeur de ses bonnes œuvres. « J'ai construit tant de temples et rendu tant de services, lui dit l'empereur, selon vous, quel est le mérite que j'ai ainsi accumulé ?»« Aucun mérite, de quelque type que ce soit, répondit Bodhidharma. Il ne s'agit que d'effets relatifs, à un niveau relatif. » Pour bien enfoncer le clou, il ajouta « La sagesse ultime est indiciblement parfaite, vide par essence et silencieuse au-delà des mots. Un tel mérite ne se gagne pas au moyen d'actions matérielles, de quelque type que ce soit. » Ce faisant, Bodhidharma exhorte l'empereur à porter ses vues sur l'éveil, au lieu de se vanter du mérite qu'il a accumulé. La gentillesse et les actions guidées par la compassion, telles que le service aux autres, ont bien sûr une valeur relative. Mais en soi, elle n'entraîne pas l'éveil spirituel, qui est pourtant le but du voyage spirituel bouddhiste.